Chien noir des 70s, Led Zeppelin. Feuilleton en 15 épisodes. Le succès comme ça vous change ou pas.
Talking about nights. It brings a tear. Oops. We've seen a lot of ups and downs and we've been part of lots of ups and downs. And part of these ups and downs is the ability to create rhythm. And if you liken a motor car to the parts of a human body, then sometimes you can get trampled underfoot.
On dirait qu'avec l'argent et les ventes de disques telles qu'aucun groupe avant eux n'avait connu, les concerts à un tarif auquel aucun groupe avant eux n'avait voulu prétendre, la rançon, c'est l'isolement. On a le droit de faire toutes les folies, encore les folies faut-il se les inventer, et puis s'en satisfaire. On se croirait tellement en tournée, hors des lois ordinaires. Cette masse de filles et celles qu'on convoque du doigt parmi la foule, ça ne les amuse plus. Les anecdotes de tournée ne manquent pas, mais on dirait que le cœur n'y est plus. Maintenant qu'ils ont un chez-soi, qu'ils y passent plus de temps, on établit une protection. Et pour chacun, c'est comme un retour à l'adolescence. On rétablit autour de soi une coquille qui est comme un vieux rêve, mais un rêve qu'on aurait pu satisfaire quand autrefois il vous était venu. Ainsi de Bonzo et ses voitures. Tout ce qu'il repère en Californie, il se le fait expédier à Birmingham. Il s'achète une antique Ford T, un dragster Chevrolet, et installe le moteur du dragster sur la Ford T, d'accord, mais il semble plus fier de cela que de tout le travail avec Led Zeppelin. Quelquefois sa femme est triste, de trop peu le voir, mais surtout parce que maintenant, rompre avec l'alcool, c'est impossible, même à Birmingham. Un soir au pub, il se souvient seulement à 7 heures que c'est l'anniversaire de Pat qui attend leur deuxième enfant. Il se précipite au garage Maserati, se le fait réouvrir. On n'a rien ici à lui refuser, on l'appelle Mr. Bonham et non Bonzo, et il achète plus de Ferrari, Triumph, Bentley que tous les autres riches de Birmingham réunis, une fortune. Mais Bonzo n'y comprend rien à sa fortune, ça lui semble inépuisable. Il ramène la voiture neuve à Pat, lui offre la clé, elle refuse même d'y monter. Ainsi de Jimmy Page et d'Aleister Crowley. Jimmy Page, parlant du mage Aleister Crowley, je crois que c'est un génie incompris. Tout ce qu'il voulait, c'était la libération de l'individu, de l'entité. Sans la moindre restriction, qui serait une tromperie, aurait mené à la frustration qui conduit, elle, à la violence, au crime, à l'effondrement mental, selon le masque qui déjà est en toi. Il est vraiment convaincu, Jimmy Page, dès qu'il est question d'Aleister Crowley. Jimmy Page, parlant d'Aleister Crowley. À mesure que ce siècle devient technologique, aliéné, beaucoup de choses qu'il a annoncées se révèlent justes. C'était un visionnaire, tu vois. Aleister Crowley, c'est l'initiateur de l'ordre de l'Aube d'Or, entre Cabale et Rose-Croix. Persuadé d'avoir rencontré en 1904 l'envoyé du ciel qui lui était réservé, communiquant avec Horus. Réincarnation, se pensait-il, des mages Eliphas Lévi et Cagliostro, pas moins. Prolifique auteur de toutes clés philosophiques, il a laissé 777 écrits. Judy, Judy, Judy. Jimmy Page n'a jamais dit comment s'était faite leur première rencontre, quel livre lui était arrivé dans les mains, provoquant quelle réflexion. Il dit qu'il ne souhaite pas mélanger ce qui l'intéresse, personnellement, étudier l'occultisme, avec la musique et sa face publique. Aleister Crowley prônait et mettait lui-même en exemple la polygamie et l'inhalation d'héroïne. Aleister Crowley considérait que les lois qu'on s'inventait soi-même répondaient par avance à une nécessité céleste inconnue, qu'elles étaient donc justifiables pourvu qu'elles vous fournissent des sensations plus amples, plus aiguës. Toutes choses, disposées de filles ici et là, cédées de poudre même si la société vous dit le contraire, communiquées par l'hypnose avec des ordres supérieurs, parce que sur scène, la transe qu'on éprouve participe elle aussi d'une transcendance, bien faite pour convenir à une rockstar. Dès ses premiers revenus, du temps des studios puis des Yardbirds, bien avant Led Zeppelin, Jimmy Page collectionne les éditions rares, les manuscrits des œuvres de Crowley. Quand l'ancienne propriété du mage sur le Loch Ness est à vendre, c'est lui qui l'achète. Y ont eu lieu depuis plusieurs suicides. Les clients ne se bousculent pas. Il rachètera aussi, en Sicile, l'ancienne abbaye où Crowley avait installé sa secte. Maintenant, aux enchères, ou en faisant confiance à quelques intermédiaires, il achète même les pipes, les cannes, les lunettes censées avoir appartenu à Crowley, et même les robes qu'il portait pour ses étranges cérémonies de culte, ou ce que les antiquaires lui garantissent-elles. Il va même ouvrir cette année 1976 à Kensington une librairie uniquement consacrée à Crowley et l'occultisme. Où en est Jimmy Page avec son mage aujourd'hui ? Après tout, chacun ses faiblesses. Combien sommes-nous à vouloir près de nous une guitare sans en tirer le millième de ce qu'en fait Jimmy Page ? Alors, laissons-le aimer les livres, même si ce sont les livres d'Aleister Crowley. Sometimes I get so worried. Sometimes I get so blue. Just one thing I can never, never do. I can't quit you, babe. Ce qui ne tient pas du mysticisme, c'est l'activité de Peter Grant, leur producteur. Le contrat de 5 ans avec Atlantic arrive à son terme. Ils continueront de distribuer Led Zeppelin, mais le groupe va créer sa propre marque, Swan Song, le chant du cygne. Mais où le cygne, sur les pochettes de disques, a le corps d'un homme nu, aux ailes dorées, aspiré vers le ciel ou dans la chute, on ne sait. Une petite marge de plus pour eux-mêmes, sur les profits de Led Zeppelin, sur les groupes produits par Jimmy Page comme Bad Company ou les vieux Pretty Things, et produire, il sait faire. Leur lubie cette année, c'est un film à leur honneur. Un film qu'ils financent eux-mêmes. On reprend le concert du Madison Square Garden et on installe une fiction. Oh, pas très compliquée la fiction. Un facteur des postes anglaises arrive chez chacun des musiciens du groupe, dans le manoir de John Paul Jones, dans la ferme de Bonham qui laboure, parmi les brebis de Robert Plant, et leur remet à chacun le télégramme avec convocation pour New York. Sur la bande-son du concert, on placera ces séquences un peu naïves, où chacun se montre dans sa vie familiale, chantant une comptine aux enfants, caressant ses chiens, ou bien, pour Jimmy Page, jouant de la vielle à roue au-dessus du Loch Ness, dans la maison du mage, avec le regard soudain devenu violet et luminescent. Le film s'appelle « The Song Remains the Same ». Fou. Écoutez ma chanson, dites, m'écouterez-vous, alors chantez avec moi. Tu ne sais pas sinon ce que tu manques, même avec cette petite, petite chanson. Tout ce qui est petit peut grandir. People, won't you listen now?
sing along, yeah. You don't know what you're missing now. Any little song that you know, everything that's small has to grow.
Quand on part en tournée, maintenant, Led Zeppelin, c'est une industrie. On louait déjà un avion privé. Maintenant, on réquisitionne cette belle fantaisie années 70 qui s'appelle le Starship, le vaisseau des étoiles. Plus beau, paraît-il, que le Air Force One du président des États-Unis. Un Boeing qui n'existe qu'à un seul exemplaire, aménagé avec des chambres d'hôtes, donc on peut y dormir, des douches, un bar avec même cheminée et feu de bois pour l'atmosphère, une stéréo ultra puissante et un orgue électrique. Après chaque concert, le Starship avale le groupe et tout le monde et les ramène au Hyatt Hotel de Los Angeles qui devient leur base permanente. C'est bien moins fatigant, disent-ils, que d'en changer chaque soir. Et les fêtes qu'on fera à bord seront la nouvelle étape de la légende sulfureuse du groupe. Soleil de Californie, douce pluie de Calcutta et les étoiles d'Honolulu. Ma chanson partout reste la même. Le problème, c'est Bonzo, l'alcoolisme de Bonzo, les colères de Bonzo. Il boit en permanence, mais il a l'alcool mauvais, Bonzo. Quand il a bu, il frappe. C'est très Birmingham, mais c'est moins drôle au quotidien. Au prétexte qu'un homme d'affaires hébergé au Hyatt Hotel porte des lunettes de soleil qui lui ont paru arrogantes, le poing dans la figure. Mais c'est toutes les semaines ces affaires-là maintenant. Parce que Bonzo a peur de l'avion, parce que Bonzo en a marre des tournées, dans le Starship, les premières fois, on l'invite dans la cabine, on le fait s'asseoir sur le siège du copilote, on lui laisse un instant le manche et les pédales. C'est aussi bien, dit-il, que conduire une voiture, ça va même plus vite. Il est émerveillé, il n'a plus peur. On lui fait ça deux fois, trois fois, mais finalement, on préfère lui laisser le droit de boire ce qu'il veut, autant qu'il s'assomme d'alcool et dorme le reste du trajet. Il ne manquera jamais un concert pour autant. Yes, he has. Octobre 72, on est accueilli pour la première fois au Japon. Mais le groupe s'ennuie au Japon. Trop sage, le Japon. Alors on prend des billets aller-retour week-end pour Hong Kong, ou au moins là-bas, on s'amuse. The usual fans and games, dit Richard Cole. Nos petits amusements habituels. Après le restaurant, parce qu'ils en étaient devenus goinfres, greedy, ils achètent un sac de cocaïne. Oui, Cole dit un sac. Et comme on est pressé, on plonge directement les pailles dans la poudre. S'il raconte ça, Richard Cole, c'est parce qu'au lieu de cocaïne, on leur avait fourni un sac d'héroïne. Alors bien sûr qu'ils s'en souviennent. Avant, on savait pas ce que c'était, mais après, on savait pas qui on était. C'est ça l'humour, Richard Cole. Le lendemain, vol retour pour la suite de la tournée au Japon. Mais c'est à cause de cette anecdote de Hong Kong qu'on a l'aveu de la consommation effrénée de cocaïne et un repère de date. L'héroïne est entrée dans le paysage et ne le quittera plus. Ils auront mis 3 ans. 3 ans seulement, 3 ans en tout, avant leur apogée et descente. La descente, au moins pour Jimmy Page et John Bonham, c'est l'héroïne qu'on insuffle, et bientôt pour Jimmy Page, 8 ans durant, qu'on s'injecte. reste la musique. On a beau être devenu des maîtres, on ne change rien, par exemple, à la trouille avant d'entrer en scène, devant ces dizaines de milliers de silhouettes et leur bruit gigantesque. Bonzo dit que dans le groupe, chacun a sa façon d'affronter, de compenser. Jimmy Page demande une loge séparée, s'enferme tout seul, ne parle plus à personne. Lui, bonhomme, il marche de long en large. Une transpiration froide. Il fait du dos de la main le geste de s'éponger. Il dit qu'il regarde ses mains, essaye un geste du poignet, mais se dit qu'il n'y arrivera plus, ne sait plus comment faire, que les mains et les poignets sont gourds, empâtés, et qu'il serait mieux sur ses chantiers à Birmingham, qu'il préférerait courir, s'enfuir, prendre l'avion, revenir avec son tracteur, ses voitures. Alors il se raisonne, pense que c'est son dernier concert. Si c'est raté, oui, il arrête, définitivement, ne recommencera jamais plus. Il dit que c'est terrible, énorme, le bruit de ces foules qu'il perçoit à distance. Maintenant qu'ils les attendent et que lui, le baraquier, le maçon charpentier, se sent minuscule. Et puis, dit-il, on y va, je m'assois, je frappe, et tout est oublié. Plant héberge discrètement dans les hôtels une certaine Linda. Jones est très secret, préfère désormais réserver un hôtel différent de celui du groupe. Bonham, après les concerts, c'est la bouteille en compagnie de Richard Cole. Pour Jimmy Page commence l'époque Laurie Maddox. Une magnifique brune, une fille grande et fine comme lui l'était à cet âge, mais Laurie Maddox n'a même pas 15 ans. La liaison sera clandestine et Grant n'hésite pas à réserver deux chambres, une officielle mais où Page ne dormira pas et une autre sous un faux nom où il recevra son égérie mineure. C'est la fin de la tournée de 73. On a mis dans le coffre de l'hôtel une énorme somme en liquide, 180 000 ou 200 000 dollars. Eux-mêmes ne savent pas le compte exact. Mais au moment de partir pour le second concert, Cole découvre qu'il n'y a plus rien dans le coffre. La violence de la réaction de Grant tient sans doute moins à la somme elle-même qu'au fait que la cagnotte liquide soit découverte. L'argent, paraît-il, devait payer l'avion privé ainsi que l'équipe qui a filmé les concerts. Mais les finances de Peter Grant, c'est toujours obscur. Le FBI fouille les chambres. Le premier suspecté, c'est forcément Richard Cole. 4 heures d'interrogatoire, détecteur à mensonges. Seulement les détecteurs ne détectent rien. Il y a trop longtemps qu'il fait ce métier brutal, l'ancien commando, et traite de beaucoup d'affaires en même temps, qui toutes exigent le secret. Il restera plusieurs mois sous la surveillance de la police américaine. Pour Cole, même vis-à-vis du groupe, c'est un peu le début de la fin. Demain, pourquoi on les aime et comment c'est fait? Led Zeppelin vu par Vincent Segal. Chien noir des 70s, Led Zeppelin. Groupe de réalisation Claude Guerre, Jean-François Néolier, Bruno Mourlan, Peyre Legras. Texte écrit et dit par François Bon.